Voilà. Donc bonjour et rebonjour à tous. Je crois avoir salué à peu près tout le monde. Donc après 2 mois de pause, voilà, j'espère que. Alors je ne sais pas s'il y a quand même des réunions qui ont continué pendant l'été. Voilà, il y a eu quand même des petites choses. Voilà. En tout cas, 2 mois de pause pour la série là, qui nous occupe sur la première épître de Jean. Donc, nous allons reprendre aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on en est. Comment ?
On a fait le 3.
Alors, on va faire le 3 aujourd'hui. Voilà. Donc, d'abord, petite introduction et donc petit rappel. Sur la première épître de Jean, 5 chapitres. Et nous avons déjà eu 2 ou 3 messages. Donc je vous redonne un peu la structure d'ensemble de l'épître. Ça vous permettra de voir où est-ce qu'on en arrive exactement aujourd'hui. On a eu un message sur le début de l'épître de Jean, donc chapitre 1 et une bonne moitié du chapitre 2. Et là, si vous vous souvenez, je l'avais présenté sous la forme d'une catéchèse, un enseignement pour les jeunes convertis. Et vous rappelez que le message de Jean au départ, c'était l'importance de la marche dans la lumière pour expérimenter la communion les uns avec les autres et l'efficacité du sang de l'agneau pour la purification de nos âmes. Et tout le début donc, ressemblait beaucoup à une catéchèse, à un enseignement que l'on donne à des jeunes convertis. Et je vous le rappelle au chapitre 2, verset 1, « Je vous écris ces choses » afin que vous ne péchiez pas. Donc Jean donne une voie, qui est la marche dans la lumière, la confession du péché, la reconnaissance de son état de pécheur devant Dieu, dans la lumière de son esprit, pour l'efficacité du sang, et recevoir la réception du pardon de la part de Dieu, afin que vous ne péchiez point. Donc c'est une voie de sanctification. Et toujours dans ce même passage, il avait été question des enfants, des jeunes gens et des pères. Ce qui montre bien qu'il y a une progression des enfants qui ont connu le Père, des jeunes gens qui gardent la parole et ont combattu le serpent, c'est-à-dire les mensonges, et ont gardé la vérité de la parole, et ils sont devenus spirituellement forts, parce que devenus humainement faibles, ils ont vu leur nature de péché, ils l'ont confessé devant Dieu, ils ont pris cette position de pécheur devant Dieu, ce qui a permis à l'esprit de prendre le relais de la chair, ils sont devenus forts. Et enfin, il dit au Père, « Père, vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Donc voilà, cette première partie, juste pour rappel, on voyait bien cette catéchèse et cette progression de l'enfant aux jeunes gens, à l'homme mûr, homme et femme mûr. Donc, c'est un chemin de maturité. Dans un deuxième message, une deuxième partie, nous avions vu les messies menteurs. Donc, dans vos textes, en général, il est question de l'antéchrist. Et l'antéchrist, en araméen, c'est le messie menteur. Et on avait tourné un peu les choses, plutôt que de dire, voilà, l'antéchrist arrive, ou il est arrivé, ou... et commencer à disserter sur ces choses-là, dire « mais Messie, ça veut dire « oint », et le mot « chrétien » veut dire « oint ». Et si on transformait ça en « les chrétiens menteurs » Et donc, qu'est-ce qu'il en est de notre vie devant Dieu? Qu'est-ce qu'il en est de notre témoignage devant Dieu? Est-il véridique en ayant suivi ce chemin de catéchèse et de croissance dans le Seigneur? Ou alors, est-ce que nous sommes simplement des religieux qui avons une façade de chrétiens, mais ne connaissons pas Jésus? C'était le sens un peu du deuxième. Et ça, c'est la deuxième partie. Alors, si vous suivez maintenant mes mains, on ne le voit pas dans l'enregistrement, mais la première partie, catéchèse, la deuxième partie, les messies menteurs, et nous allons maintenant au cœur de l'épître, qui est le centre de l'épître, sur le commandement d'amour que le Seigneur nous a laissé. Et nous verrons, donc, cette partie-là va occuper ce message-ci et le prochain. En fait, il y a beaucoup de choses. Et ensuite, nous aborderons la quatrième partie, qui sont les faux prophètes symétriques des faux messies. Vous voyez, catéchèse, les faux messies, commandement d'amour, les faux prophètes en face des faux messies. Et ensuite, la dernière partie de l'épître de Jean, où Jean va revenir une deuxième fois sur le commandement d'amour. Donc, cinq grandes parties. Donc aujourd'hui, nous allons au cœur de ce que Jean veut nous transmettre au travers de l'épître. Je vous rappelle que quand on trouve une structure qui s'appelle un chiasme, l'important est toujours au centre. Nous, en occidentaux, on met l'important au début, dans l'introduction, ou à la fin, dans la conclusion. Dans la pensée sémite, dans l'organisation des textes, on met l'important au centre et on montre, on construit la structure pour bien indiquer c'est quoi qui est important. Donc aujourd'hui, nous allons être occupés avec le chapitre 3 de l'épître de Jean. La première chose que je fais, et qu'on est invité à faire souvent quand on lit un texte, c'est de voir, un peu comme je l'ai fait pour toute l'épître, est-ce qu'il y a une structure dans comment est organisé le texte, quelle en est la structure. Et en fait, le troisième chapitre de l'épître de Jean comprend en fait cinq thèmes, cinq blocs d'à peu près de même taille. Et nous allons aujourd'hui lire les deux premiers. Et la prochaine fois, ce sera les trois suivants. Parce que les deux premiers ont un écho l'un avec l'autre, et donc c'est bien de les traiter ensemble. Donc nous allons prier avant de lire le texte. Père Céleste, c'est toi qui révèles ta parole par ton esprit. Et cette parole est révélée par ton esprit si nous y découvrons le trésor, la perle rare, c'est-à-dire le Fils, l'agneau de Dieu et lion de Juda, celui qui se cache plus ou moins derrière chacun des versets, chacun des mots de cette parole. Donc c'est de lui dont nous voulons encore parler ce matin. C'est lui que nous voulons élever, que nous voulons glorifier. Donc aide-nous à saisir cela et à le voir au travers de tout ce qui va être dit ce matin. Amen. Donc chapitre 3, 5 blocs, on regarde les deux premiers. Et plutôt que de tout lire, on va lire le premier bloc, on va le commenter. Deuxième bloc, on va le commenter. Hein, comme ça, on ne va pas perdre le fil de ce qui est dit. Et surtout, on va essayer de voir qu'est-ce qui unifie chacun des blocs. Alors, le premier bloc. Donc, je vous le lis à partir d'une traduction, toujours pareille, de l'araméen. Donc, ça va différer un petit peu de ce que vous entendez, mais c'est bien d'entendre des choses parfois d'une autre manière. Donc, chapitre 3, verset 1, et je vais le lire jusqu'au verset 6. Voyez combien grand est l'amour ardent du Père envers nous, du fait qu'il nous ait appelés fils et filles, et qu'aussi il nous a fait tels. Il ne nous a pas simplement appelés enfants, mais il nous a fait enfants. À cause de ceci, le monde présent ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu non plus. Mes bien-aimés que j'aime ardemment, maintenant nous sommes fils et filles de Dieu. Et ce que nous allons être n'a pas été révélé jusqu'à maintenant. Or, et là j'attire votre attention sur les verbes qui suivent et qui sont tous au présent. Or, nous connaissons que quand Jésus est révélé, souvent dans vos traductions vous dites sera révélé, là c'est au présent. Nous connaissons que quand Jésus est révélé, à sa ressemblance nous sommes présents. Et nous le voyons présent selon ce qu'il est. Et donc là, d'après la version de l'araméen, Jean parle d'un processus qui a lieu en ce moment même. Pas « nous le verrons tel qu'il est », non, nous le voyons tel qu'il est et nous sommes dès maintenant à sa ressemblance. Donc on va voir ensuite comment. Et quiconque a à son sujet, donc au sujet de Jésus, cette espérance, purifie son âme comme lui-même est pur. Or, celui qui met en œuvre le péché pratique l'iniquité, car tout péché est iniquité. Et vous connaissez que celui-là, Jésus, a été révélé afin qu'il prenne sur lui nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Et le dernier verset 6, qui est assez tranchant. Et tout homme qui demeure en lui ne pêche pas. Et tout homme qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà, ça c'est le premier des deux blocs. Donc le premier d'une série de 5. Et donc je lirai le deuxième bloc en deuxième partie. Alors, la première question que je vous adresse, parce que vous vous rendre un peu participant de ce message, la première question que je vous adresse, c'est de qui est-il question dans ce que je viens de lire? De quoi, de qui? Alors, je vous aide en disant de qui. Qui va être révélé? À la ressemblance de qui nous sommes et serons? Qui voyons-nous?
Les enfants de Dieu.
Alors, nous sommes les enfants de Dieu, mais celui que nous voyons, c'est
Christ.
C'est Jésus. C'est Jésus. Et donc, cette première partie, ces 6 premiers versets, nous dressent non seulement un portrait de Jésus, mais également, comme je vais le développer, nous montre la voie, en fait, de notre transformation intérieure. Donc, le texte est centré sur Jésus. Et d'abord, sur le fait de le voir. Hein, comme il est dit au verset 2, nous le voyons tel qu'il est. Le voir. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Yahweh, la gloire du Seigneur. Donc dans l'araméen, là, on retrouve bien le nom de Dieu, qu'on n'a pas dans les versions grecques. La gloire de Yahweh. Nous sommes métamorphosés en la même image de gloire en gloire, comme par l'esprit de Yahweh, ou le Yahweh qui est l'esprit. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, remarquons les temps au présent. Verset 2, à sa ressemblance, nous sommes. Et nous le voyons tel qu'il est. Il s'agit d'une expérience présente qui est la conséquence de tout ce que l'on a dit avant, la catéchèse, la maturité dans la marche avec le Seigneur et le discernement des faux messies, donc de ceux qui portent un faux témoignage mais qui n'en expérimentent pas la réalité par l'Esprit de Dieu. C'est ça un faux messie. Qui va jusqu'à culminer vers l'Antéchrist, qui est le faux Messie par excellence. Et ça, c'est un autre sujet qu'on abordera avec l'Apocalypse. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas encore complètement révélés, mais nous le voyons déjà. Pourquoi nous ne sommes pas encore complètement révélés? Parce que nous devons encore passer par un processus de transformation finale, qui est la résurrection des corps. Donc, nous sommes dans ce d'entre deux, où le corps est encore mortel, notre homme extérieur se corrompt et se détruit, comme le dit Paul, mais notre être intérieur se renouvelle à son image dans la communion avec Jésus par l'Esprit. Et quand il est dit « nous le voyons déjà » ou « tel qu'il est, nous le voyons », qu'est-ce que nous voyons en fait? Alors évidemment, on ne voit pas une statue, on ne voit pas un concept. Quand on examine la parole, on constate que ce que nous voyons, ce que nous percevons, en particulier dans la prière, c'est sa gloire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, voir sa gloire? Ça paraît un peu planant, mystique, voir sa gloire. Sa gloire, c'est ce qui est le propre de Dieu, le propre de sa nature, qui nous montre à quel point il est différent de nous. Donc en hébreu, sauf erreur, Abdel, la gloire de Dieu, c'est ce qui pèse. Ça montre son poids au sens, voilà, sa valeur. La gloire, c'est ce qui fait qu'il est radicalement différent de nous. Souvent, alors ça, là je vous livre une réflexion qui m'a beaucoup occupé ces dernières semaines. Souvent, on imagine Jésus, évidemment, comme un homme qui a marché sur la terre. On lit les évangiles et on voit donc qu'il est devenu humain, il est devenu un comme nous, et on médite sur sa proximité de par le fait qu'il soit devenu homme comme nous. Et je me suis rendu compte ces derniers temps que, paradoxalement, ce qui m'aidait beaucoup dans la marche, c'était de voir au contraire à quel point il est radicalement différent de moi. Parce que en voyant à quel point il est radicalement différent de moi, dans sa gloire, dans son incorruptibilité, dans ses perfections, dans ce bouillonnement de vie qui est en lui, ça captive mon regard intérieur. J'ai envie de le voir. J'ai envie de voir cet être, le Fils du Dieu vivant, qui est si différent de moi, si différent de nous, si glorieux, si éclatant, si pur, si saint, si... Voilà, vous mettez tous les substantifs, tous les adjectifs que vous voulez. La gloire, c'est ce qui fait que pendant l'éternité, nous allons on sera captivés à le voir, on sera subjugués, pas avec un joug d'oppression, mais subjugués parce que on verra sa gloire. Donc on verra à quel point il est différent de nous, glorieux et magnifique. Plus glorieux qu'un éclat, un diamant à 1000 éclats, on va voir un être aux perfections absolues. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Tout en compassion, tout en grâce, tout en amour, mais également tout en justice et sainteté. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Et c'est ça que nous pouvons déjà percevoir de Jésus, en particulier dans la prière. On voit plusieurs exemples de la parole, ne prenons qu'un, puisqu'ici il s'agit de l'épître de Jean. Lorsque Jésus apparaît à Jean sur l'île de Patmos, qu'est-ce qu'il fait Jean? Est-ce qu'il lève les bras au ciel en disant « Ah Jésus, toi que j'ai connu pendant 3 ans et demi sur la terre » Est-ce que c'est comme ça qu'il réagit? Comment il réagit? Qu'est-ce qui se passe? Quand il voit Jésus, le visage rayonnant comme le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à terre, comme Daniel. Quand Daniel a vu le Seigneur, il est tombé à terre. Quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans le temple, il s'est écrié « Mais malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Vous voyez? Il est radicalement différent de nous parce qu'il est divin. Mais en le voyant dans sa gloire, en percevant Jésus dans la gloire, nous avons aussi la promesse d'être un jour à sa ressemblance. La ressemblance sera achevée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça passera par la résurrection de notre corps. Donc Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que ce sera la glorification justement de notre corps. Alors non pas que nous allons devenir divins, mais nous reflèterons parfaitement sa gloire. Ça ne sera plus comme au travers d'un miroir dépoli ou, vous voyez, un verre un peu, complètement translucide, mais nous reflèterons entièrement sa gloire, comme la lune, qui n'a pas de lumière en elle-même, reflète la lumière du soleil. Hein? Nous n'avons pas de gloire en nous-mêmes, mais nous reflèterons parfaitement la gloire de l'agneau, qui sera notre soleil, qui sera notre roi, qui sera le centre de notre vie. Donc nous avons cette promesse d'être un jour à sa ressemblance. Et là, je vais lire Hébreux 10. Alors je pense que ça fait écho à ce que tu as lu tout à l'heure. C'était Hébreux 10 également. En tout cas, il était question de la persévérance. Donc moi, j'ai pris quelques versets. Alors je ne sais plus si c'est avant ou après. Dans Hébreux 10, 25. Par contre, je vais vous le lire dans une version qui n'est là encore pas habituelle. Dans Hébreux 10, 25, vous avez, je pense, dans vos versions, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Or, c'est intéressant parce que le mot qui est employé là, ce n'est pas le mot habituel pour l'assemblée, c'est-à-dire ecclésia, mais c'est le mot pour le rassemblement, notre rassemblement avec lui lorsqu'il revient. Alors, c'est celui qu'on trouve dans 2 Thessaloniciens 2.1. Ce mot-là n'apparaît que deux fois, ici dans Hébreux et dans 2 Thessaloniciens. Et il est question de notre réunion avec lui, notre rassemblement avec lui. Donc lisons-le comme ça. N'abandonnons pas notre rassemblement avec lui, c'est-à-dire à son retour, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc on voit bien que le contexte, c'est celui du retour de Jésus. Donc voyons, nous le voyons dans sa gloire, et nous avons cette persévérance pour pouvoir un jour être comme lui et à sa ressemblance. Mais bien évidemment, s'il est radicalement différent de nous parce qu'il est Dieu, et nous ne sommes que vases de terre, bien évidemment, Jésus est devenu si proche de nous par son incarnation. Et c'est là qu'on retrouve maintenant sa proximité. Et c'est là le paradoxe incroyable, de réaliser à quel point il est radicalement différent de nous, et pourtant si proche de nous, par son humanité. Sa gloire, il l'a voilée dans un corps de chair, y compris corps glorifié, de telle manière à pouvoir nous permettre de nous approcher de lui aussi proche que possible. Radicalement différent de nous par sa gloire divine, et pourtant si proche de nous par son humanité. À tel point, comme on l'a dit, qu'il a porté nos péchés sur la croix. Et là, c'est un paradoxe, et c'est intéressant de mettre les deux ensemble. Pourquoi ? Je vais l'expliquer après. Ça sera la deuxième partie. Si vous vous rappelez de la prière de Jésus dans Jean 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il dit dans cette prière au verset 24 ? Est-ce que quelqu'un peut le lire ? Dans Jean 17, verset 24. Et donc le lire avec une voix, voilà, pour que ça soit enregistré. Jean 17, verset 24. Ça montre ce qui est au centre de notre recherche.
Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Pour qu'ils voient ma gloire. C'est-à-dire pour qu'ils voient mon intimité, ma nature, pour qu'ils soient captivés par cette vision-là. Dieu ne nous attrape pas de force. Il ne met pas sur nous un joug pesant. C'est étonnant. Ce que Dieu fait, c'est que simplement, il se montre. Et quand il se montre, c'est comme cela, comme il est dit dans je ne sais plus quel prophète, qui nous lie à lui par des cordages d'amour et des liens d'humanité. Pas en nous attachant, en nous ligotant, en nous subjuguant, en nous dominant, mais simplement en montrant qui il est. Vous vous rappelez les chérubins qui portent le trône de Dieu, sur lequel est la gloire de Dieu ? Ils sont obligés de mettre des ailes devant leurs yeux en disant « Mais saint, 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 et l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. » Tellement magnifique, alors qu'ils sont tout, tout proches. Ils se couvrent la face en disant « Mais waouh !» Et c'est ça qui nous attend. Et donc c'est ça qu'il nous faut cultiver maintenant. Voir qui il est dans son intimité. C'est comme cela qu'il nous transforme. Comme je l'ai lu tout à l'heure, hein, nous sommes métamorphosés par la contemplation de sa gloire. À la fois, à quel point il est différent de nous, et donc la promesse de ce que nous serons, mais également combien il est proche de nous. Et voir Jésus, qui est l'image de Dieu, c'est le connaître. Et le connaître, c'est connaître son Père. Et c'est pour ça que Jean commence par « Voyez combien grand est l'amour ardent du Père. » Mais le chemin vers le Père passe par le Fils. Vous vous rappelez cette passage? Alors c'est un verset que je cite souvent, parce que pour moi ça me parle beaucoup, dans Jean 14. « Celui qui garde sa parole, celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime, qui aime Jésus. » Et celui qui m'aime sera aimé du Père. Je l'aimerai et je me montrerai à lui. Je lui montrerai ma gloire. Donc vous voyez que voir la gloire de Dieu, ce n'est pas instantanément à la conversion. Et garder la parole. Vous vous rappelez les jeunes gens qui sont devenus forts en Jésus parce qu'ils gardent la parole. Alors le Père se révèle et le Fils se montre. Ou plutôt, le Père manifeste son amour en permettant au Fils de montrer sa gloire, de montrer son intimité, de montrer qui il est. Et là, il y a une boucle qui se ferme entre garder la parole et saisir la gloire de Dieu en la personne de Jésus. Donc ça, c'est le premier volet de ce que nous dit Jean dans ce texte. Nous le connaissons, il est révélé, à sa ressemblance nous sommes, nous le voyons. Voilà, c'est ce premier thème, la gloire, voir Jésus dans sa gloire. Mais la conséquence de la vision de la gloire de Dieu en la personne de Jésus, il est dit au verset 3, c'est qu'ayant cette espérance-là à son sujet, nous nous purifions. Romains 2, c'est parce que je vois la bonté de Dieu que cela me conduit à la repentance. Le moteur de la repentance, c'est de comprendre la bonté de Dieu en ce qu'il a donné son Fils. Et le moteur de la purification, de notre sanctification, et la purification par le sang, c'est de voir la gloire de Dieu, à quel point il est radicalement différent de moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans Ésaïe, Ésaïe voit la gloire de Dieu et réalise immédiatement qu'il est pécheur. Vous vous rappelez l'épisode de la barque au début des évangiles, quand sur la parole de Jésus, Pierre jette son filet, alors qu'il avait passé la nuit et n'avait rien attrapé, et au petit matin, c'est le dernier moment où on jette les filets, il revient avec plein de poissons, et la première chose qu'il dit à Jésus, c'est quoi ?
Tu es le Fils de Dieu.
Non. Vous vous rappelez pas ? Il dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Vous voyez ? La confrontation à la bonté de Dieu, à la gloire de Dieu, au pardon de Dieu, c'est immédiatement, mais je ne suis qu'un pécheur. Il est radicalement différent de moi. Parce qu'on réalise qu'il est radicalement différent de nous, ensuite il s'approche de nous, il nous montre ce qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire ôter les péchés. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et je vais revenir sur cette combinaison tout à l'heure, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ce n'est pas à coup de loi et de commandement et de légalisme, j'y reviendrai après, qu'on s'approche de Dieu. Ce n'est pas par la peur de l'enfer qu'on s'approche de Dieu. Vous voyez ? C'est au contraire, c'est en voyant la gloire de Dieu. Et là, on voit que l'on est pécheur. Et le processus de repentance s'enclenche. Donc, c'est en ayant une vision. Et quelque part, la conversion, c'est une vision de Dieu. D'un seul coup, il y a une lumière qui s'allume et on réalise, waouh, il y a Dieu. Donc, il est venu pour ôter le péché. C'est ce qui est dit ici. Il a été révélé afin qu'il prenne sur lui nos péchés, au verset 5. Cette purification, c'est une purification évidemment au jour le jour. C'est ce que dit Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 10. Jésus donc dit à Képhas, à l'apôtre Pierre, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. » Mais pas tous. Il y avait une allusion évidemment à Judas. Mais c'est intéressant. Vous êtes purs, donc purifiez vos pieds. Ce qui est, nous garde encore en contact avec le monde. Voilà, il y a une partie qu'on lave constamment, mais vous êtes purs. Ça nous rappelle ce passage-là, puisqu'il est dit là, il purifie son âme comme Jésus lui-même est pur. Pierre, justement, Pierre a exactement la même idée dans la première épître, au chapitre 1, versets 22 et 23. Là encore, si quelqu'un veut bien le lire. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 22 et 23.
Comme vous, vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité, en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie. aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur. Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu.
Voilà, et on retrouve dans ce passage de Pierre exactement les thèmes qu'on retrouve ici, puisqu'il sera question juste après de la semence de Dieu. Il est également question, dans ce que l'on vient de lire dans la première épître de Pierre, du commandement de Dieu, aimez-vous ardemment les uns les autres, et également cette notion de purification en obéissant à la vérité. Et je vous rappelle qu'en araméen, la vérité ne renvoie pas à une doctrine. Ce n'est pas parce que j'affine mes doctrines, ma théologie, que je m'approche de Dieu. Ça, c'est une grande erreur qui est commise. Mais le mot vérité en araméen renvoie toujours à l'œuvre d'affermissement de notre cœur par l'esprit. C'est pour ça que l'obéissance à la voix de Dieu affermit notre cœur par l'esprit de Dieu dans la relation avec Jésus. Donc, la vérité, là, il est question d'une relation à Dieu par l'esprit, en obéissant à la parole. Et avant de basculer vers le deuxième bloc, il y a ce dernier verset, le verset 6, qui est quand même... Tout homme qui demeure en lui ne pêche pas. Et tout homme qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a pas connu. Alors, est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui ne pêche jamais? Parce que si je prends ça de manière littérale, celui qui pêche ne l'a pas vu. Waouh, c'est un peu radical. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors d'abord, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Pour une raison très simple, c'est que l'Épître elle-même nous le dit. Alors, je cherche juste le passage où je l'ai. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, si un frère a péché, mais d'un péché qui ne mène pas à la mort, alors priez pour le frère et Dieu le ramènera à la vie. Donc, si quelqu'un a péché. 1 Jean 2. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons le consolateur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous voyez ? Donc là, il y a deux extrêmes à éviter. Je vous le rappelle et je vous l'ai déjà dit à d'autres occasions, la parole en fait est organisée le plus souvent en thèse, antithèse, troisième voie. Et ce n'est pas parce que j'aime la philosophie que j'ai dit ça. Mais c'est parce que c'est vraiment souvent comme ça. Il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a les deux voies charnelles, les deux voies naturelles, qui reflètent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autrement dit la loi. On est légaliste ou on rejette la loi. On est athée ou on est religieux. Mais dans aucun des deux cas, on est en relation, dans la troisième voie, avec Jésus, qui est l'arbre de vie. Thèse, antithèse, charybde, scylla, pour ceux qui connaissent l'Odyssée, le retour d'Ulysse, hein, en voulant éviter Charybde, on se fracasse contre Scylla. En voulant éviter le légalisme, pour ne pas être légaliste, on devient laxiste. Ou en réaction au laxiste, on devient légaliste. Ça, c'est la voie de la loi. Un exemple très simple, c'est ce que dit Paul dans Corinthiens. Les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ et Christ crucifié, qui est à la fois puissance de Dieu et sagesse de Dieu, mais qui les dépasse les deux. Vous voyez ? Donc là, quand on lit ça, tout homme qui pêche ne l'a pas vu. Donc on remet ça dans une perspective, comme je viens de le dire, avec d'un côté le perfectionniste. Le perfectionniste, le légaliste, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Je ne pêche plus, donc je ne suis plus pêcheur. Et ça, c'était le discours des pharisiens. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Mais nous, on a la loi, on est éclairé par la loi. Nous ne sommes pas des pêcheurs d'entre les païens. Voilà, ça c'est la mentalité du perfectionniste, la mentalité du légaliste. C'est également Paul qui dit dans Galates 2, verset 15, alors c'est pas tout à fait dans le même sens, mais ça montre bien quand même. Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Donc là, ce qui était mis en jeu par le contraste entre juifs et païens, c'est que nous, nous avons la loi, eux ne l'ont pas. Donc, de toute façon, ils pêchent. Et nous, nous avons la loi, donc comme le disait Paul d'ailleurs lui-même, moi j'étais zélé pour la loi, et comme il était irréprochable à l'égard de la loi. Voilà, ça c'est la mentalité du pharisien. Avant qu'il ne voie la lumière de Jésus et qu'il tombe à terre. Toujours le même. Jésus ne l'a pas condamné, repris, il a juste montré sa gloire. Paul a vu une lumière, il est tombé à terre. Voilà, il a été terrassé. Et à partir de là, le chemin a pu commencer. Donc le pharisien, le perfectionniste, le légaliste, dit « Je ne pêche plus, donc je ne suis pas pécheur. » Je ne sais pas si vous avez essayé de reprendre quelqu'un qui pense ne plus pécher. J'ai connu ça. Je vous l'assure, dans une mission il y a bien longtemps, j'ai connu ça. Alors, quand c'est le cas, on a affaire à quelqu'un qui est rempli de propre justice, qui est aveugle sur lui-même. Et là, on retrouve ce qu'on a dit au départ dans la première épître de Jean. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Il y a un aveuglement, il y a un orgueil. Et donc, quand on essaie de le reprendre, oui, c'est une faiblesse, c'est une faute, mais jamais il pourra dire « j'ai péché ». J'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu. Parce qu'il pense vraiment, ça y est, voilà, tous ses efforts, il est parvenu à la victoire sur le péché. Vous voyez, ça c'est le pharisien. Mais en symétrique du pharisien, il y a le laxiste. Et le laxiste, il dit, bon, je suis un pécheur, donc c'est normal que je pêche. Et je pêcherai jusqu'à la fin. Oui, et là, il y a une tension. Parce que là, on se demande, mais où est la sanctification? Où est la marche de gloire en gloire? Où est le progrès dans la vie spirituelle? Or, ce laxisme-là, Paul le dénonce évidemment, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, versets 1 et 2. Après avoir parlé de la mort de Jésus en tant que nouvel Adam, dans Romains 5, il dit « Quoi donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Et il dit « Mais loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Hein? Donc le laxisme va dire « Ah ben Jésus, il est mort pour porter mes péchés, donc de toute façon c'est pas grave, et puis il continuera à les porter comme ça jusqu'à la fin. » Il n'y a rien qui s'enclenche en nous. Vous voyez ? Le point commun entre le perfectionniste, le légaliste, et le laxiste, c'est qu'aucun des deux, en fait, ne voit la gloire de Dieu. Le légaliste, il ne voit que sa propre gloire. Vous vous rappelez de ce passage dans Jean 5, verset 44 ? Vous tirez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Donc le légaliste, il cherche sa propre gloire, il cherche à paraître. Il cherche à montrer combien il est religieux, mais il ne connaît pas ce processus de transformation intérieure et il ne peut pas dire « Seigneur, je viens à toi comme un pécheur. » Et inversement, le laxiste. Le laxiste voit ses péchés et il dit « Je suis pécheur, je pêche, j'ai péché et je pêcherai toujours. » Mais ils ne voient pas la gloire de Dieu. Donc les uns cherchent leur propre gloire et sont aveugles sur leur péché. L'autre ne voit que trop son péché, mais il n'a jamais vu la gloire de Dieu qui permet de connaître cette transformation. Et donc le point commun entre le légaliste et le laxiste, c'est qu'aucun des deux, en fait, ne connaît cette transformation intérieure par l'Esprit de Dieu. Et je vais revenir ensuite sur ce qu'est cette transformation intérieure. De peur qu'on ne commence à se regarder à nous-mêmes en se prenant pour des pans. Ce n'est pas du tout ça, la transformation intérieure. Donc, j'y reviens juste après. Donc, aucun des deux, en fait, ne connaît Jésus. Donc, on voit bien que quand Jean dit « L'homme qui demeure en lui ne pêche pas », il ne parle pas de perfectionniste, « et tout homme qui pêche ne l'a pas vu », Ça pourrait être un laxisme. Mais dans les deux cas, il faut connaître la gloire de Dieu, il faut voir Jésus pour trouver l'équilibre entre ces deux affirmations. On ne peut demeurer dans un péché dont le Seigneur nous délivre par la révélation de sa personne, pas par des processus d'auto-analyse, de mortification et tout un tas de choses, d'exercices spirituels, mais c'est par la révélation de sa personne en relation avec le péché avec lequel on lutte. Et c'est comme ça qu'on avance de gloire en gloire et de victoire en victoire. Seigneur, dans cette chose avec laquelle je suis en lutte, en quoi tu es la réponse? C'est ça le fond de notre prière de sanctification. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc on voit que la clé pour rejeter les fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est de garder les yeux sur Jésus. Ce que j'ai appelé tout à l'heure la troisième voie. Ce qui me fait maintenant dire que le point commun, là encore, entre le légaliste perfectionniste et le laxiste, c'est qu'en fait, ils passent leur temps à regarder eux-mêmes. Les uns à s'admirer devant le miroir, parce qu'ils sont propres justes, et les autres à se lamenter parce qu'ils ne voient que leur péché. Mais aucun des deux ne voit Jésus. Aucun des deux n'a le regard fixé sur Jésus. En fait, le point commun, c'est que chacun des deux regarde à soi. L'un parce qu'il se trouve terriblement beau, et l'autre parce qu'il se trouve terriblement horrible. Mais dans les deux cas, ils se regardent eux-mêmes. Vous voyez, le regard n'est pas sur Jésus. Donc le laxiste va dire « Dieu est amour, amour, amour ». Et le légaliste va dire « Dieu est lumière, 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 Dieu est saint, saint, saint ». Mais on ne voit pas la gloire de Dieu et en miroir notre nature de péché. Il faut les deux pour que nous puissions avancer dans la connaissance de Jésus. Ésaïe 41, verset 16, « Tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. » Si vous faites une petite étude, vous verrez combien le thème de la gloire et le thème de la sainteté vont ensemble. Ou acte 7, verset 55, on a parlé d'Étienne tout à l'heure. « Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à sa droite. » Voilà. Quand on pense à plénitude de l'esprit, baptême de l'esprit, on imagine tout un tas de choses. Alors, ce n'est pas le sujet de la prédication aujourd'hui, mais voilà, non. Être rempli de l'esprit, c'est voir la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu, c'est être transformé intérieurement, parce qu'on reconnaît toujours plus à quel point, dans notre nature profonde, nous sommes des pécheurs. Donc, il y a ce jeu entre la gloire de Dieu qui révèle. Voilà, ça, c'est la première partie. Donc on va avancer à la deuxième, sinon on ne va pas être dans les temps. Mais gardons bien, et je vais revenir un tout petit peu sur cette idée à la fin. La deuxième partie, donc, parmi les cinq parties du chapitre 3, ce sont les versets 7 à 9. Et donc je vous les lis à nouveau, à partir d'une traduction. 3, versets 7 à 9. « Mes fils et filles, que nul être humain ne vous séduise et ne vous égare dans l'erreur. Celui qui met en œuvre la justice est juste, comme lui-même aussi, le Messie, est juste. Celui qui pratique le péché est de Satan, c'est-à-dire l'adversaire, parce que dès l'origine du monde, lui, Satan, c'est-à-dire l'adversaire, est pécheur. Et à cause de ceci, le Fils de Dieu a été vu et est apparu afin de délier et défaire les œuvres de Satan. Tout homme qui est enfanté de Dieu, qui est né de Dieu, ne met pas en œuvre le péché. Et il ne peut pas pécher du fait qu'il est enfanté de Dieu. Là, on retrouve à nouveau dans ce verset 9 un un verset assez radical, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Donc ça renvoie à ce que j'ai dit avant, donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, à nouveau. Donc on va maintenant l'aborder un petit peu de manière différente. Dans ce que je viens de dire, la pensée centrale, c'est ce contraste maintenant entre Jésus et Satan. La pratique de la justice, la pratique du péché. C'est ça qui est mis en avant dans ce deuxième bloc. Dans le premier, on a vu la gloire de Dieu et notre purification. Maintenant, on voit cette mise en contraste entre Jésus et Satan. La pratique du péché, la pratique de la justice. Ça fait écho à ce que dit Jésus par ailleurs dans l'Évangile. C'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Un fruit porté avec persévérance. Et non pas, comme dirait le perfectionniste, sans jamais d'accident ou de problème. Non, c'est une lutte, la marche chrétienne. Mais il y a un axe de fruit, fruit de l'esprit, dans la persévérance, dans la recherche de Dieu, dans la contemplation de la gloire. On ne le lâche pas, on le cherche, lui. Et donc là, le propos est là encore assez radical. Parce que Jésus est juste, celui qui pratique la justice est comme lui, il est de lui. Ou celui qui se réclame de Jésus pratique la justice. Et là, ça renvoie à, entre autres, à ce que dit Jacques dans le chapitre 2, justement. Hein, n'aimez pas en parole, avec des belles phrases, mais en acte. Et là, on retrouve un peu l'esprit anabaptiste, qui est une mise en pratique dans la parole, beaucoup plus qu'une théologisation de la parole. Comment peut-on mettre la parole en pratique? Comment puis-je, de manière pratique, aimer mon prochain? Et donc, comme Jésus est juste, celui qui pratique la justice est de lui, ou celui qui est de lui pratique la justice, et de la même manière, comme Satan est un pécheur, celui qui pratique le péché continuellement, qui voilà, se vautre là-dedans, voire le justifie théologiquement, parce que ça existe, ça s'appelle l'antinomisme, la loi de Dieu s'est dépassée, Dieu, Jésus l'a aboli. Enfin, Jésus n'a jamais aboli la loi de Dieu. Ce qu'il a ouvert, c'est la manière de l'accomplir, non pas par nos propres efforts, le légaliste, mais par l'union avec lui, en relation avec lui. C'est lui qui a accompli la loi, c'est pas nous. Et donc, dans ce contraste entre Jésus et Satan, que l'on reconnaît dans les faits par la pratique de la justice vis-à-vis de la pratique du péché, Paul, en fait, encore lui, toujours dans le même chapitre 6, dit exactement la même chose. Au verset 15 et 16. « Quoi donc pécherions-nous, parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ? Mais loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance, qui conduit à la justice. » Et on retrouve ce contraste, la pratique du péché, la pratique de la justice. Exactement comme le dit Jean dans la première épître. Et au cœur de cette pensée, il est bien précisé, Jésus est venu pour défaire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, pas dans le monde. On sait que le monde termine dans les flammes. Mais les œuvres du diable dans notre chair, dans notre vie, pour nous dégager des pièges du diable, des liens. Et qu'est-ce qui rend ici, une deuxième fois, la parole de Jésus radicale? Il est dit, à cause de la semence de Dieu que Dieu a plantée en nous. C'est ça qui lui permet de dire, vous avez la semence ou vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de troisième voie là. Si on l'a, il y a un processus en nous qui s'est enclenché et qui va se terminer avec le retour de Jésus ou notre propre mort qui revient à, pour chacun de nous au retour de Jésus. C'est pas nous, c'est pas Jésus qui retourne à nous, c'est nous qui retournons à lui. Donc c'est le même processus de rencontre. Mais un processus est enclenché par la semence de Dieu, par l'ADN de Dieu, le code génétique quelque part, qu'il plante en nous, exactement comme une graine qui tombe en terre, Jean 12, et qui va finir par mourir. Et ensuite, ce processus de mort engendre la vie. C'est inexorable dès lors que la semence a été plantée. Il n'y a que quelque chose qui peut stopper ça, parabole du semeur, donc je ne vais pas redévelopper tout ça, mais si on se laisse étouffer par l'amour des richesses, c'est mammon, ou alors le soleil des persécutions, et on n'a pas la persévérance pour tenir. Ça, ça peut étouffer la semence de Dieu. Mais si elle est arrosée, si on cherche Jésus, on voit sa gloire, alors cette semence, de manière quasi inexorable, nous amène à la croissance et au fait de porter des fruits. Donc, ce qui permet à Jean d'être aussi radical, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, celui qui pêche n'est pas de Dieu, c'est la question, il le dit lui-même, c'est à cause de la semence qui a été plantée en nous. On l'a ou on ne l'a pas. Jésus a cette même manière de voir quand il dit « À celui qui a, on donnera et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on va lui ôter même ce qu'il pense avoir. » Donc il y a quelque chose qui, si on l'a, on ira vers l'abondance, l'abondance spirituelle, la connaissance de Jésus, comme le dit Pierre dans la première épître. Tout ce qui est utile à la vie et à la piété est dans la, réside dans la connaissance du Fils. Mais si on ne l'a pas, tout ce que l'on pense avoir, nos rites, nos traditions, notre théologie, notre connaissance, nos bonnes œuvres, etc., tout ça disparaît en fumée devant Dieu. C'est comme Caïn qui offrait ses fruits. Ce sont ses propres œuvres. Ça ne tient pas dans la sainteté de Dieu qui est une flamme. Et c'est cette semence en nous, la parole de Dieu, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure de la première épître de Pierre, il est dit donc que c'est la semence, la parole incorruptible qui a été plantée en nous. C'est ça qui fait que tout ce que j'ai dit ce matin, en fait, se développe. On l'a ou on ne l'a pas. Et au fond de nous, on le sait. On le sait. Si on expérimente cette croissance dans la connaissance de Dieu en la personne de Jésus, ou si on est juste dans la connaissance ou les efforts, mais on ne s'en sort pas et on végète et on tourne en rond. Voilà, ça, chacun le sait devant Dieu. Mais ne nous trompons pas. Et là, je réinsiste sur ce point. Comment le sait-on? Quelle est la mesure de notre progrès? Est-ce que c'est parce qu'on regarde à nous-mêmes? Et j'ai dit tout à l'heure, surtout pas. Paradoxalement, c'est quand on se regarde à nous-mêmes qu'en fait on réactive la chair. La puissance du péché est dans la loi. Oh, il y a ça qui est mal. Ça y est, je suis en train de raisonner en bon légaliste. Et plus je commence à juger mes propres actions en bien, mal, et à me surveiller moi-même pour savoir si je suis dans la chair ou pas, en fait, plus je donne de puissance à la chair. C'est le paradoxe. Et dans ce cadre-là, j'aime beaucoup citer ce que disait Tozer, donc un de mes auteurs favoris, parce qu'il exprime vraiment cette quête de Jésus. Il disait la chose suivante: le saint ne sait pas qu'il l'est. Et si on lui disait « Oh, que tu es saint !» il dirait « Arrière de moi, Satan !» Parce que Satan nous induit à nous regarder nous-mêmes. Et par là, il réactive notre chair et le processus de la loi, et on se juge, et on se compare, et voilà. Le saint ne sait pas qu'il l'est. Pourquoi ? Parce qu'il regarde à Jésus. Et plus il voit la gloire de Jésus, plus il voit sa misère, plus il voit qu'il n'est qu'un vase de terre, qu'il devient faible, qu'il devient pauvre. On l'a lu, on a fait allusion ce matin aux béatitudes. Heureux les pauvres d'esprit, et on pourrait dire, comme le dit Paul, en paraphrasant ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 12, heureux les faibles, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est là aussi est notre lutte, accepter d'être faible, accepter d'être pauvre, accepter de nous voir nous-mêmes que comme des vases de terre et des pécheurs devant Dieu, prendre devant Dieu la position du pécheur, et en contraste avec sa gloire. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est radicalement différent de nous et pourtant si proche de nous. Donc, le perfectionniste regarde à sa propre gloire. Le laxiste ne voit que son péché. Aucun des deux n'a le regard fixé sur Jésus. Et donc, là, il n'y a pas de mesure de sainteté en nous-mêmes. La mesure, par contre, dont on est tous conscients, c'est si on voit Jésus ou pas. Si notre regard est centré sur lui. Si notre adoration est centrée sur lui. Voilà, ça c'est la part que l'on voit. Mais l'œuvre que Dieu fait en nous, on voit le fruit, mais on ne se mesure pas en termes de sainteté. Ça, ce sont les milieux légalistes qui font ça. On regarde à lui. Donc la seule chose dont on peut être conscient, c'est est-ce que nous regardons à lui? Est-ce que notre regard est sur lui? Est-ce que la première pensée qu'on a quand on se réveille le matin, elle est tournée vers lui? Quand on est dans nos activités quotidiennes, on est affairé à des tas de choses, et dès qu'on relâche l'attention, ouf, il y a le cœur qui remonte vers lui. Il occupe nos pensées, exactement comme un amoureux ne pense qu'à sa bien-aimée, ou une amoureuse ne pense qu'à son bien-aimé. Occupé dans les affaires de tous les jours, mais dès que l'attention est relâchée, hop, la pensée se lève à nouveau vers lui. Voyez ? Ça montre effectivement que son esprit travaille en nous. Et donc dans cette semence, il n'y a pas d'instantané, mais c'est bien un processus qui est enclenché. On passe de la mort à la vie, de la chair à l'esprit, des ténèbres à la lumière. Et ensuite, il y a cette croissance qui se fait, une naissance. Je vous rappelle que la naissance, elle a lieu 9 mois après la fécondation. Donc on a souvent tendance à voir la nouvelle naissance comme un acte instantané. Je préfère le voir comme un processus. Justement, première épître de Jean, premier chapitre, marche dans la lumière, et à un moment on débouche dans la lumière et on se met à marcher par l'esprit et marcher selon l'esprit, comme le dit Paul dans Galates 5, et c'est ainsi que vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Donc pas en confrontant la chair et en mesurant à combien, où est-ce qu'on en est, mais en regardant à lui, parce que la marche par l'esprit, c'est regarder à Jésus tout simplement. L'esprit glorifie Jésus, l'esprit tourne notre cœur vers Jésus. Et donc c'est un processus qui se révèle avec le temps et s'achèvera évidemment au jour où Jésus reviendra pour la glorification finale de notre corps. 1 Corinthiens 15. Et donc la troisième voie, et je conclue avec ça parce que c'est largement l'heure, la troisième voie entre être saint au sens du légaliste, c'est-à-dire impeccable, qui au sens étymologique veut dire sans péché, c'est pas possible, et ne pas être saint, ça c'est l'impénitent, le laxiste qui tourne en rond dans le désert et n'en sortira jamais. La troisième voie, c'est cette dynamique de l'esprit en nous et une expérience croissante de notre union à Jésus. Et je vous rappelle que le mot dynamique, pourquoi j'ai dit dynamique? Parce que c'est celui qui est habituellement traduit par le mot puissance. Il y a des milieux qui cherchent la puissance de l'esprit. Mais le mot grec, c'est le mot dynamos. Et je préfère le rendre par la dynamique de l'esprit, la dynamique de vie en nous. Parce que là, ça nous ramène à cette union avec Jésus, cette relation avec Jésus, et non pas la quête de puissance qui peut vite ouvrir à des choses dangereuses si on n'y fait pas gaffe. Parce que nos yeux ne sont plus sur Jésus, mais sur autre chose. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'était donc pour les deux premiers blocs, les deux premières parties du chapitre 3 de l'épître de Jean. Et donc la prochaine fois, dans un mois normalement, on va regarder les trois blocs suivants. Et on va voir la continuité de la pensée de Jean dans cet épître. Voilà, j'ai largement...